Tout de suite, le grand débat, Louis Dauphren.
Un grand débat à tonalité sportive aujourd'hui. Et oui, si vous nous écoutez, vous savez qu'on commente l'actualité de la semaine la plupart du temps. J'ai voulu prendre un petit peu de distance par rapport à une actualité souvent dramatique. On a beaucoup parlé de la Nouvelle-Calédonie, des élections européennes, de toutes les actualités qui souvent sont dramatiques. Alors, on ne va pas nécessairement les exclure, mais plutôt les inclure. Par exemple, si on doit parler des nations qui participent aux Jeux Olympiques, la question se pose pour la Russie, pour le cas d'Israël. On l'a vu pour l'Eurovision, ça a suscité beaucoup de polémiques. On va voir ce que pensent nos débatteurs de toutes ces réalités qui se profilent. D'abord avec les JO. Les JO, c'est une organisation, c'est une gouvernance. Ce sont aussi des aspects économiques. Il y a des chiffres qui ont été annoncés tout récemment. L'événement commence le 26 juillet, il s'achève le 11 août. Alors, il y a certains qui regardent la chose de manière extrêmement perplexe en se disant il faut fuir Paris absolument. Qu'en est-il du QR code, des accès aux quartiers, etc. Beaucoup d'inquiétudes autour de cela. Et puis, on parlera aussi des sources et de l'esprit de l'olympisme. Et puis, bien sûr, des enjeux sportifs, ce que l'on peut attendre, des espoirs de médailles, des figures à suivre. On ira du côté aussi de l'Euro. La liste de Didier Deschamps a été rendue publique, avec donc des joueurs de foot de la sélection nationale qui vont commencer à entrer en piste à la fin du mois. C'est le 29 mai qu'ils commencent à se rassembler avec des noms qui émergent et que vont pouvoir aussi commenter, analyser nos trois invités. Pascal Boniface, qui dirige l'Institut des relations internationales et stratégiques, l'IRIS, passionné de sport, au-delà de Léo Ferré aussi, dont on avait parlé sur cette antenne. Géopolitique du sport, cher Armand Colin. Bonjour Pascal.
Bonjour.
Gérard Regnès est également des nôtres, ancien rédacteur en chef du journal L'Équipe. Bonjour Gérard.
Bonjour.
Et bien sûr François Morinière, j'allais dire notre consultant sport quand on parle de sport, président des entretiens de Valpré, ancien directeur du journal L'Équipe. Bonjour François, qui est à distance avec nous ce matin.
Vous
entend-il ?
Oui, voilà, bonjour François. Auditeurs.
Merci à tous les trois donc d'avoir accepté cette sollicitation autour de l'événement des JO. Est-ce qu'on peut déjà dire... Pascal Boniface, Gérard Regnès, François Morinière, je pense que vous entendez tous les trois, puisque vous êtes sur YouTube aussi, vous pouvez nous suivre. Est-ce qu'on peut déjà dire que l'organisation des JO sera au rendez-vous, Pascal Boniface ? Qu'est-ce que vous avez comme info là-dessus ?
Oui, pour l'instant, tout se passe comme prévu, ce qui n'est pas toujours le cas. Il y a quand même un comité d'organisation qui est solide, qui est très professionnel. On sait ça depuis de longue date. Enfin, il y a un calendrier qui est prévu depuis longue date, depuis en fait septembre 2017, date à laquelle à Lima, le CIO a attribué les Jeux 2024 à Paris. Et donc, on a eu 7 ans pour se préparer, sachant qu'il y a un travail qui a été un peu commencé en amont, et sachant aussi que la plupart des infrastructures étaient déjà existantes, qu'il fallait un peu réaménager le Stade de France, mais il existait, et qu'il fallait, comme installation nouvelle, construire un village olympique, une cité du journalisme et une piscine qui sont prêtes. Donc oui, normalement, tout est prêt. Après, il y a toujours des impondérables, mais normalement, la France sera au rendez-vous.
Qu'est-ce que vous redoutez, vous ?
Le problème majeur pour toute organisation, d'un spectacle, d'un événement majeur, c'est la sécurité. Et ça, bien sûr, il faudra voir. Il y a la cérémonie d'ouverture qui se déroulera sur la scène, qui pour la première fois de l'histoire des Jeux se déroulera en dehors d'un stade, qui peut être un moment magnifique en termes de spectacle visuel, tout à fait inconnu, mais bien sûr qui pose des problèmes de sécurité, et je dirais que tout le reste des Jeux. Aujourd'hui, le premier souci de quelconque organisateur d'un événement, c'est la sécurité. Il en ira de même, ce n'est pas différent, il en ira de même pour Paris 2024.
François Morinière, vous, quelle est votre analyse justement à partir des infos dont on peut disposer ? On sait que vous en avez certainement, François.
Dans les propos de Pascal, moi je suis donc membre du comité d'audit des Jeux Olympiques de Paris 2024, donc on a des réunions régulières et effectivement il y a une organisation qui est solide. Pour l'instant, il y a bien sûr des petits problèmes qui apparaissent ici et là de taille petite ou moyenne, mais aujourd'hui il y a aucun élément qui puisse dire que l'organisation sera pas au rendez-vous. Effectivement, c'est une équipe très professionnelle avec des gens aguerris qui savent exactement ce qu'ils doivent faire depuis très longtemps. Des sites qui sont pas trop des sites qu'on connaît en partie. L'organisation propre des JO, c'est pas de, je vois pas de difficultés principales. Et effectivement, la question de des problèmes de mobilité, dont on va parler. Et puis le gros sujet, c'est évidemment la sécurisation de la cérémonie d'ouverture.
Est-ce que cela, justement, compromet quelques événements qui étaient prévus ou change la nature de ces événements parce que certains, pour des questions de sécurité, ne voudraient pas qu'ils soient organisés à tel ou tel endroit ?
Vous parlez en France en général ?
En France en général, oui.
Ça met la pression sur beaucoup d'événements, de festivals qui ont dû décaler. Ça pose des problèmes de disponibilité des forces de l'ordre ailleurs en France. Ça pose des problèmes de matériel, tout le matériel nécessaire pour organiser des événements ailleurs. Alors moi, je peux pas vous donner un exemple. J'ai pas un exemple en tête, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont décalées à cause des JO. Oui.
Gérard Agenès, comment voyez-vous cet événement tel qu'il se profile aujourd'hui ? On est un petit peu plus de 2 mois.
Alors moi, si vous voulez, ouais, je peux me présenter en tant que citoyen lambda. Passionné de sport, j'attends le 26 juillet. Mais je l'attends sans angoisse, sans inquiétude, avec beaucoup d'espoir et beaucoup de passion déjà. Évidemment, on ne peut pas dire qu'un événement sportif commence à la date où les événements sportifs commencent eux-mêmes, puisque à partir du moment où on est organisateur, il y a toute la pression de cet événement et de cette organisation. Mais on sait bien comment ça se passe. Hein. Il y a 2 ans, pendant des mois et des mois, tous les médias nous ont parlé des terribles coupures de courant, d'électricité que la France allait subir, que l'hiver allait être catastrophique. Et, il n'y a eu aucune coupure de courant. C'est le principe des médias. C'est-à-dire
On exagère, on crée de l'angoisse alors qu'il n'y a pas de raison.
Oui, enfin, les médias, c'est anxiogène. Hein. Ce n'est pas moi qui vais l'inventer. Hein. Voilà, et... Je crois qu'on a le droit de commencer déjà à se réjouir pour la grandeur, la beauté de cet événement. On va en parler tout à l'heure. Et de se dire que je crois, comme l'a dit Pascal Boniface, ou comme le dit François, que tout a bien été fait. Mais tout a bien été fait, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problème, parce que ça ne dépend pas que des organisateurs, bien sûr. Mais tout a bien été fait. On se souvient quand même de certains Jeux Olympiques. Alors, ça remonte à longtemps, mais par exemple à Montréal, enfin, la veille du début des Jeux, il y avait encore des grèves sur les chantiers, le stade était à peine fini. Finalement, moi, je trouve qu'il y a une adhésion très forte, parce qu'on parle, il va y avoir des grèves, mais enfin, il n'y en a pas. Il n'y en a pas pour le moment.
Il y a le mouvement de grève des éboueurs parisiens qui menace.
Tout le monde
menace. Toute la période des JO, quand même.
Oui, tout le monde menace, bien sûr. Mais enfin, on est dans un monde où tout le monde menace tout le monde en permanence. Mais ça ne veut rien dire, ça, tout le monde menace. Ben, c'est le rôle des syndicats de menacer. C'est le rôle de. Chacun est venu sur Terre pour jouer son rôle. Donc chacun joue son rôle. Mais on a le droit d'imaginer que ça va être terrible, on a le droit d'imaginer que ça va être génial. Moi, je crois que ça va être génial. Voilà, oui, il y a des problèmes. Ben oui, on peut se dire la cérémonie d'ouverture, c'est une idée folle, mais génialement folle.
Est-ce qu'on sait à quoi ça va ressembler, la cérémonie d'ouverture, Gérard Agenès, Pascal Boniface, François Morinière?
Normalement,
ça va être un défilé sur la scène.
Allez, François et puis Pascal.
Oui, donc ça va être un défilé qui va partir du pont d'Austerlitz avec des barges qui vont emmener... des artistes, donc voilà, et puis les équipes des pays qui vont défiler au fur et à mesure sur la scène pour arriver vers le Trocadéro où il y aura une vasque où sera allumée la flamme olympique. Donc ça va être un truc, comme dit Gérard, grandiose, assez long, parce que voilà, pour faire manœuvrer des barges. Mmh. Plus de 100 barges, je crois, sous le contrôle de Pascal, c'est 150 barges, je crois, qui vont se succéder avec des tableaux artistiques et donc des équipes. Ça va être monumental, oui.
Et donc, avec une longueur, un kilométrage très important du pont d'Austerlitz au Trocadéro, 150 barges, évidemment, là, la question de la sécurité se pose au premier chef.
Alors, il n'y a pas tous les... Je crois qu'à Paris, il y a 40, je ne sais plus combien de ponts. Enfin, il y a beaucoup de ponts à sécuriser, beaucoup de quais à sécuriser. Donc, il y a une réduction des jauges qui a été faite à la demande du président de la République et Gérald Darmanin. Mais il y aura quand même des centaines de milliers de personnes, donc il faut sécuriser tout ça très en amont. Donc ça veut dire que les temps d'accès vont être très longs, parce qu'il va falloir filtrer, nettoyer les zones avant, en demandant aux gens de sortir de tous les périmètres, pour pouvoir après refaire entrer les gens dans les périmètres contrôlés, avec des badges d'accès et des QR codes très précis pour ceux qui habitent dans la zone. Enfin, c'est vraiment une logistique qui va être très compliquée. Mais enfin bon, la France a un talent d'organisation. Hein. Je vous rappelle quand même que on a organisé beaucoup d'événements, une Coupe du Monde, deux Coupes du Monde de football, un Euro.
Il y a un savoir-faire. Pascal Boniface, sur cette cérémonie d'ouverture, justement, ça, c'est quelque chose de grandiose, d'inédit.
En fait, tout le dossier a été construit pour que les plus beaux monuments de Paris soient mis en valeur. Donc, les compétitions auront lieu devant la Tour Eiffel, le Grand Palais, Château de Versailles, etc. Ça sera un écrin pour la France. Et la semaine d'ouverture, d'habitude, vous êtes toutes les délégations derrière un prod drapeau, les unes après les autres par ordre alphabétique, qui défilent, qui font le tour du stade. Là, elles feront le tour de la Seine. Donc, en fait, le monde entier va voir la Seine, les monuments autour de la Seine, etc. Et on peut s'attendre. Londres a beaucoup bénéficié, après 2012, d'un flux touristique plus important parce que tout le monde avait vu le pont, etc. Et Paris va en bénéficier de la même façon. La France est la première destination touristique mondiale. Elle tient à garder cette place et elle devait aussi l'améliorer. Donc, il y a ce qui se passera. Il y a peut-être des gens qui ne vont pas venir à Paris cette année pour ne pas venir pendant les Jeux Olympiques, en disant ça va être trop cher, etc. Et puis, il y a plein de gens qui viendront, mais il y a quand même des gens qui vont venir. Et puis, il y a plein de gens qui vont venir les années suivantes parce qu'ils auront vu Paris à la télé et qu'ils voudront le voir de leurs propres yeux.
Sur la question des périmètres de sécurité qui suscite beaucoup d'inquiétude chez les Parisiens, de savoir comment je vais pouvoir rentrer chez moi. Il y a eu même des manifestations qui se sont organisées autour de cette question-là. Et savoir comment on va pouvoir accéder à Paris à partir de, dans les jours qui viennent même, puisqu'il était question aussi de commencer en amont de ces JO. Est-ce qu'on a des infos là-dessus, Gérard Agenès, Pascal Boniface, François Morinière, Gérard ou
non,
Pascal
mais... J'ai pas d'infos particulières, mais enfin, bien sûr, il faut accepter le fait que quand on organise un tel événement, parce que François parlait de la Coupe du Monde de football qui a été organisée, ou même la Coupe du Monde de rugby, mais enfin, je me permets de dire que ça n'a rien à voir. Il n'arrive pas des sportifs de 200 pays différents dans ces cas-là, et puis on est dans un monosport, et puis dans quelques lieux, dans quelques stades, dans une douzaine de stades. Là, ça n'a rien à voir. Alors, on parle des problèmes. Bien sûr, si c'est pour dire qu'il y a de la gêne pour les habitants, oui, mais enfin, chaque année, on constate que Paris est vide au mois d'août. Alors, et là, il semblerait que cette année, tous les Parisiens aient décidé de rester, de ne pas partir en vacances. Ben non, forcément non. Ça ne se passe pas comme ça. Il y a beaucoup de gens qui seront partis. Ben, il y aura une gêne au quotidien pour les gens qui restent, mais... Mais oui, mais enfin, si on commence à se plaindre de ça, on ne fait plus rien, on n'organise plus rien. Il n'y a plus d'événements sportifs, il n'y a plus de grands événements culturels, il n'y a plus de grands événements artistiques. Voilà, il faut accepter ça. C'est une gêne pour beaucoup de bonheur.
François Morinière.
C'est une fois.
On ne vous entend pas bien, François, allez-y.
Je supposais qu'on en ait un dans 100 ans. Donc.
Oui, c'est une fois dans 100 ans.
Oui, je dis, c'est une fois tous les 100 ans. L'événement.
C'est une fois tous les 100 ans, c'est en 1924, voilà. la dernière fois à Paris.
Donc, un événement comme ça tous les 100 ans, on peut accepter quand même un peu de complications.
Donc, périmètre de sécurité, il y avait aussi l'histoire du SMS un peu anxiogène qu'on a reçu, ou vous l'avez peut-être reçu, sur les questions envoyées par le ministère de l'Intérieur. Un SMS d'alerte envoyé aux Parisiens, est-ce que ça, Pascal Boniface
Je ne l'ai pas reçu, donc je ne peux pas vous dire. on fait toujours des montagnes avant, et puis après, ça va rouler. Enfin, ça sera quand même relativement fluide, bien sûr, il faut prendre des précautions. Mais les Français, là, bon, on est Parisiens, les Parisiens râlent parce qu'il y a des complications, mais si aucune mesure de sécurité n'était prise, les Parisiens râleraient en disant qu'est-ce qui se passe. Donc il faut quand même accepter. Vous savez, quand c'est le 31 décembre, il y a des mesures de sécurité qui sont prises, il y a toujours des mesures de sécurité. Pour le 14 juillet, le défilé, il y a des mesures de sécurité qui sont prises, donc ce n'est pas anormal.
On monte un peu d'un cran quand même, SMS, on ne l'avait pas eu, le QR code non plus,
oui,
etc.
Enfin, on n'organise pas la finale du club de boules du 12e arrondissement, on organise les Jeux Olympiques, donc on monte un peu en gamme quand même.
C'est un prix à payer pour organiser les Jeux Olympiques.
Ce qui va être, comment dirais-je, le plus impactant, le plus difficile pour les gens, c'est ceux qui travaillent dans Paris. C'est-à-dire, moi je pense par exemple au personnel des hôtels, aux livreurs, etc. C'est ces gens-là tous ceux qui peuvent partir, partiront, parce que soit ils ne sont pas intéressés, soit ils en font une montagne. Après, voilà, pour ceux qui travaillent, ça va être plus compliqué, qui ont des obligations tôt le matin, etc., de livraison. Voilà, moi je pense à des femmes de ménage qui viennent, par exemple, dans des hôtels, etc. Bon, voilà, il y aura pour eux quand même un moment pas simple à passer.
Alors, il y a une autre dimension de ces JO. Je disais tout à l'heure qu'avec l'Eurovision, on a vu qu'il y avait eu des tensions autour de la participation d'Israël et le fait que la Russie ne participe pas à l'Eurovision, dont la finale a été organisée à Malmö tout récemment. La question géopolitique, Pascal Boniface, se pose dans ces JO et va s'immiscer
Elle se pose depuis longtemps. Elle se pose d'une part à cause de la Russie ou du fait de la Russie. Le CIO a décidé d'exclure la Russie comme nation. Au départ, parce qu'elle a fait la guerre, et puis ensuite, on a trouvé une autre excuse, c'est qu'elle a annexé des organisations sportives ukrainiennes dans le championnat russe. Donc, c'est contraire à la charte. On a aussi exclu la Biélorussie, qui, elle, n'annexait personne, mais qui est l'alliée, la complice de la Russie. Donc, on l'a annexée pour des raisons, on l'a exclue, pardon, pour des raisons géopolitiques, et plutôt à la demande des pays occidentaux, puisque les pays du Sud sont moins critiques à l'égard de la Russie et de la Biélorussie. Et donc, les sportifs russes et biélorusses pourront participer uniquement à titre individuel, sans qu'il y ait le drapeau, sans qu'il y ait l'hymne s'ils gagnent, aux compétitions. Ils seront exclus d'ailleurs du défilé d'ouverture, de la cérémonie d'ouverture, et ils peuvent y participer à condition de n'être pas liés aux organes du régime qui font la guerre. Donc, il faut même qu'ils s'engagent à critiquer la guerre, à ne pas prendre des distances avec Poutine. Donc, autant dire qu'il y aura...
Sous quelle forme ?
Il faut qu'ils fassent une déclaration disant qu'ils ne supportent pas la guerre, etc. Donc, des Russes vivant ici, il y en aura assez peu. Moi, je ne serais pas étonné que Poutine, à des moments, décide de boycotter les Jeux pour dire « bon, c'est pas pour nous, c'est un complot occidental ». Et du coup, la Russie essaye d'organiser des contre-jeux, les Jeux des BRICS, etc. C'est un peu, dès qu'il y a un boycott, on les contre-jeux. Il y avait les Goodwill Games en 80, il y avait les Jeux de l'amitié en 84.
80, c'était les Jeux de Moscou.
C'est ça, et 84 de Los Angeles, donc... Ceux qui boycottent organisent leur contre-jeu, ça ne marchera pas parce que le CIO a pris une telle place et que rien. C'est ça que je voudrais insister sur. Les JO, c'est l'universalisme. Vous avez dit, M. Gérard Arnès, que c'était tous les pays, tous les sports et tous les pays sont là. La Coupe du Monde, il n'y a que 32, puis bientôt 48 qualifiés. Il y a les 206 pays, parce qu'il y a plus de pays qui sont membres du CIO que qui sont membres de l'ONU. Et donc, bon, la Russie sera exclue comme nation, quelques Russes y participeront, pareil pour les Biélorussies, et puis se pose le problème d'Israël, parce que certains ont demandé qu'Israël soit exclu du fait des bombardements sur Gaza. Pour l'instant, le CIO n'a pas accepté cette demande, qui d'ailleurs est plus une demande politique, puisque d'après ce que je crois savoir, le Comité national olympique palestinien n'a pas demandé l'exclusion d'Israël de la compétition, parce que c'est l'autorité palestinienne qui contrôle le Comité national olympique palestinien et qu'ils ne sont pas aussi opposés que cela à Israël. Mais il y a un débat politique sur la participation ou non à Israël. Et là, bien sûr, ça pose des problèmes de sécurité, puisque la délégation israélienne, la délégation comme la délégation américaine, ont leurs propres services de sécurité qui viennent se greffer sur les services de sécurité généraux. Et donc, il y aura certainement, il n'est pas exclu qu'il y ait des protestations dans les stades ou autour des stades contre la participation d'Israël. Et je pense que si des athlètes russes viennent, ils seront, eux, un peu protégés du fait qu'ils ne représentent pas la Russie.
Mais ça vous paraît très improbable qu'Israël ne participe pas à ces JO ?
Écoutez, pour l'instant, ils participent. Si, par exemple, il y avait demain une opération sur Rafah qui fasse 50 000 morts, peut-être que la question se posera de façon différente. Mais pour l'instant, disons qu'il y a aussi Israël, il y a une histoire compliqué avec les Jeux, parce qu'on a en mémoire les attentats de 72 à Munich, et puis Thomas Bach, le patron du CIO, il est allemand. Et les Allemands, pour des raisons historiques bien compréhensibles, ont du mal à critiquer Israël. Donc ça fait une double raison qui fait que... Et puis, bon, Israël est protégé par les pays occidentaux, donc et qui ont toujours un poids important au CIO.
François Morinière, c'est votre analyse également, hein, celle de Pascal Boniface et la vôtre se croisent ?
Oui, je pense que la probabilité qu'il y ait une décision du CIO contre Israël est très très faible. Enfin, il faudrait vraiment qu'il se passe un truc incroyable pour que le CIO soit amené à revoir sa position. Donc, je pense qu'il y a aucun...
Mais on va vous dire qu'à Gaza, c'est un truc incroyable, c'est ça. Ce qui se passe déjà à Gaza, on va vous dire que c'est incroyable.
Mais ça ne suffit pas. Mais la situation, elle est connue. Enfin, ce qui se passe à Gaza est épouvantable, c'est connu depuis des mois. Donc, je veux dire... ce que je veux dire, c'est qu'il faudrait qu'il y ait une séquence nouvelle. Pardon, alors je m'exprimais différemment. Il faudrait qu'il y ait une séquence nouvelle du conflit qui, en urgence, oblige le CIO à revoir sa position. Mais franchement, Pascal connaît bien l'histoire du CIO. Je vois vraiment pas cette option possible.
Gérard Regnès.
Mais le souhait du CIO, ça a toujours été d'avoir un maximum de pays participant aux Jeux Olympiques. C'est normal, c'est le principe de l'universalité. Le principe donc le CIO n'est pas là, son souhait premier, c'est pas d'exclure. Alors évidemment, ça c'est la question s'est posée pour la Russie parce que bon, il y a un problème d'occupation de territoire étranger d'un autre pays du CIO. Bon, maintenant, moi, je ne sais pas, je ne vais pas...
C'est la règle, d'ailleurs, quand un pays du CIO occupe un autre pays du CIO,
Mais c'est-à-dire que si on commence à prendre en compte tous les conflits qui existent actuellement sur notre planète, c'est pas juste Israël et la Russie qui vont poser problème. Il y a beaucoup d'autres pays qui vont poser problème. Si on commence à en prendre en compte la question des droits de l'homme.
Bah, l'Éthiopie, l'Érythrée, par exemple,
le Soudan, le Rwanda.
Il y a énormément de pays, comme toujours,
il y a beaucoup d'hypocrisie. Au départ, ce sont les pays occidentaux qui ont demandé l'élection de la Russie pour la sanctionner de son agression de l'Ukraine. Au début, Thomas Bach a dit il y a 70 pays qui sont en guerre, je peux pas exclure tout le monde, il y a 70 pays qui sont en guerre. Et puis, il y a eu plus de pression. Et puis, disons que la Russie a une relation compliquée avec le CIO. Au départ, Thomas Bach et Poutine étaient très proches. Poutine a joué un rôle dans l'élection de Thomas Bach à la présidence du CIO. Et puis ensuite, il y a cette histoire de dopage d'État. Donc, il y a un peu, déjà à Tokyo, la Russie n'était pas là comme État. Il y avait des sportifs russes qui participaient, non pas pour des raisons géopolitiques, mais pour des raisons de violation des règles de l'antidopage. Et donc, la Russie était déjà un petit peu marginalisée. Et là, il y a eu cette agression de la Russie, et disons que ce sont les pays occidentaux qui ont obtenu l'exclusion de la Russie. D'autres pays sont en guerre, mais ne sont pas en si grande rivalité avec les pays occidentaux que la Russie. Donc, il y a à la fois des facteurs objectifs et des facteurs subjectifs, comme à chaque fois que ce type de décision est prise.
Pascal Boniface. Oui, François Morinière.
Sur les JO de Paris, il y a le problème de la violation de la trêve olympique lors des derniers JO d'hiver, qui a été aussi un facteur aggravant contre les Russes, puisqu'ils ont déclenché le conflit, je crois, avant la fin de la trêve olympique. Et c'est un sujet qui a fortement fâché le CIO et l'ONU.
Oui, enfin François, on sait bien que c'est quand même un prétexte, puisque c'est la Géorgie qui avait lancé la guerre contre la Russie le 8 août 2008, c'est la Russie qui a ensuite gagné la guerre, mais c'est la Géorgie qui en 2008 commence l'opération militaire, on n'a pas exclu la Géorgie des Jeux Olympiques. Donc voilà, donc ça a été un argument supplémentaire pour au détriment de la Russie, mais c'est bien des décisions géopolitiques qui ont été prises et auxquelles Thomas Bach s'est rallié.
La trêve olympique, c'est aussi une illusion. Il ne faut pas croire que dans l'Antiquité, tous les conflits s'arrêtaient pendant la période olympique. Ils ne s'arrêtaient pas du tout. Mais c'est ce qu'on a voulu, c'est l'image qu'on a voulu construire.
À quoi ça correspond, la trêve olympique ?
Ça correspond à une période qui commence 7 jours avant les Jeux olympiques et qui finit 7 jours après, et qui était, à l'époque, effectivement, généralement pas à l'époque antique, qui était quand même une période qui permettait... à ceux qui allaient participer aux Jeux Olympiques, pouvoir se rendre sur le lieu des épreuves avec un minimum de risque par rapport à leur vie. Donc c'était une façon très pragmatique de permettre à minima que les athlètes rejoignent le site.
Et donc ça permettait à ce moment-là de suspendre l'idée de conflit et...
En tout cas,
enfin, l'idée, mais pas les conflits, pas les conflits.
Alors, pas le risque de conflit, les conflits existaient, comme dit Gérard, mais ça permettait aux athlètes à leur famille de pouvoir voyager un peu plus de façon sécurisée pour rejoindre tel ou tel endroit dans l'Antiquité. Voilà.
Alors, on a décrit, si on peut dire, le contexte de ces JO, les questions sécurité, organisation. Vous êtes plutôt donc optimiste, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. 206 pays à Paris, ce n'est pas rien. Une fois tous les 100 ans, ce n'est pas rien, il faut prendre conscience de tout cela. Et puis sur la question donc géopolitique qu'on a traitée, Russie, Israël et le rapport au conflit, on a donc achevé cette première partie de discussion. La seconde, on va la consacrer après 8 heures à, j'allais dire, au sport quand même, puisqu'on va voir à quoi peut-on s'attendre pour ces JO, quelles équipes vont participer, quelles sont les figures de ces JO. On dira aussi un mot de football, parce que c'est vrai qu'il y a l'Euro également qui se profile autour de Gérard Régnès, de François Morinière et de Pascal Boniface. À tout de suite.
Les assurances se valent, me direz-vous. Eh bien non. La Mutuelle Saint-Christophe Assurance couvre mon logement, ma voiture et ma santé à des prix compétitifs. Et parce qu'elle s'engage aux côtés de l'Église, elle reverse 10 euros pour tout contrat souscrit en 2024. Cet argent sert à l'entretien des paroisses et aux missions pastorales. Enfin, un assureur qui va dans la même direction que ma foi, tout en restant dans mon budget.
Mutuelle Saint-Christophe Assurance, régie par le Code des assurances, partenaire de l'Église catholique. Conditions sur notre site.
Parce que voyager, ce n'est pas seulement visiter, Odeia vous propose un circuit d'exception en Roumanie. On l'appelle la terre aux 2000 monastères. Ces églises en bois uniques au monde témoignent de la ferveur de ces paysans. Ces traditions religieuses vivaces révèlent un héritage unique. Avec l'agence de voyage Odeia, la Roumanie vous dévoile son âme, authentique et inattendue. La Roumanie, c'est en septembre prochain avec le père Gica Pollet et l'agence Odeia, odeia.fr. Odeia, les voyages qui ont une âme.
Du 12 au 16 août, venez au pèlerinage national de l'Assomption à Lourdes. Au cœur de l'été, ressourcez-vous auprès de la Vierge Marie. Quel que soit votre âge et votre état de santé, nous prendrons soin de vous. En solo, en famille, entre amis, venez à Lourdes pour prier, vous former, célébrer le Seigneur ou servir les malades et les personnes porteuses d'un handicap. Plus que jamais cet été, au National, Lourdes, ça se vit. Renseignements et inscriptions, pèlerinage-national.org.
Un week-end de Pentecôte qui se profile quand même sous des auspices agréables, ni trop chaud ni trop froid, avec cet après-midi autour de 14 degrés et 20 degrés même. Allez, les infos, c'est Montatro.
La Nouvelle-Calédonie est dans une situation plus calme et apaisée aujourd'hui selon les autorités locales, à l'exception de quartiers hors de contrôle que l'État va tenter de reprendre. Le gouvernement n'envisage pas de retrait de sa réforme constitutionnelle, a précisé le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Un millier de forces de sécurité intérieure supplémentaires sont en train d'être déployées en Nouvelle-Calédonie où la situation reste très tendue, a affirmé Gabriel Attal à l'issue de la réunion d'un nouveau conseil de défense à l'Élysée. À la demande du président de la République, nous allons renforcer encore le pont aérien de rétablissement de l'ordre qui a été mis en place pour déployer un millier d'effectifs de sécurité intérieure supplémentaires en plus des 1700 effectifs qui sont déjà sur place, a détaillé le Premier ministre. Les annonces n'ont pas convaincu. L'intersyndicale pénitentiaire a appelé hier à reconduire le mouvement de blocage des établissements pénitentiaires entamé dans toute la France mercredi en réponse à l'attaque d'un fourgon au péage d'Incarville dans l'Eure qui a fait 2 morts et 3 blessés. Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, avait transmis plus tôt dans la journée au syndicat un accord écrit recensant plusieurs engagements. Parmi eux, limiter les extractions, en particulier les plus dangereuses, la révision des niveaux d'escorte et des compositions des équipes, ou encore des dotations en armes longues et armes d'épaule automatiques. Le taux de chômage en France, au sens du Bureau international du travail, s'est stabilisé à 7,5% de la population active au premier trimestre 2024 par rapport au trimestre précédent, a rapporté ce matin l'INSEE. Dans le détail, 6 000 chômeurs supplémentaires ont été enregistrés au cours du dernier trimestre écoulé, portant leur nombre dans la France entière à 2,3 millions selon ce mode de calcul qui permet les comparaisons internationales, a précisé l'Institut national de la statistique. De l'autre côté de l'Atlantique, le ciel s'est déchaîné. Une violente tempête a frappé Houston, au Texas, tard ce jeudi. Un premier bilan communiqué par le bureau du maire aux médias locaux fait état d'au moins 4 morts. Une information confirmée en conférence de presse par les autorités qui ont appelé la population à ne pas sortir. Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes et les médias locaux ont publié des images des fortes pluies et des rafales de vent estimées jusqu'à 170 km/h dans l'agglomération de cette ville de 2 millions d'habitants. Statue de la Sainte Vierge décapitée, tableau de Sainte Thérèse de Lisieux brisé, tentative d'incendie. L'église Sainte Thérèse de Poitiers dans la Vienne a été à son tour la cible d'actes particulièrement malveillants le 14 mai. L'église était ouverte depuis 8h30 lorsque le délégué chargé de la vie matérielle est entré pour vérifier le système de sécurité incendie. Il découvre l'édifice complètement enfumé et en son centre des bancs et chaises entassés pour favoriser le départ de feu. La rapidité d'intervention des pompiers a permis d'éviter le drame et en quelques instants, les bancs et chaises ont été sortis de l'église, certains partiellement calcinés. Le diocèse a porté plainte. Une enquête est en cours.
À l'approche du week-end, apprendre à bien s'occuper de son jardin par des méthodes qui prennent soin de la planète et de ses jardiniers, c'est ce que vous propose Melchior Gormand. Prenez-en de la graine, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame tous les vendredis à 10h.
Toutes les assurances se valent, me direz-vous. Eh bien non, la Mutuelle Saint-Christophe Assurance couvre mon logement, ma voiture et ma santé à des prix compétitifs. Et parce qu'elle s'engage aux côtés de l'Église, elle reverse 10 euros pour tout contrat souscrit en 2024. Cet argent sert à l'entretien des paroisses et aux missions pastorales. Enfin, un assureur qui va dans la même direction que ma foi, tout en restant dans mon budget.
Mutuelle Saint-Christophe Assurance, régie par le Code des Assurances, partenaire de l'Église catholique. Conditions sur notre site.
Un logement pour les plus fragiles ? La Fondation pour le logement social s'y engage depuis 30 ans. Ses 11 maisons de vie et de partage, toutes situées en cœur de ville, offrent un habitat accessible aux jeunes adultes porteurs de handicap ainsi qu'à des seniors. Parce que bien vivre et bien vieillir contribuent à l'autonomie. Vous pouvez aider la Fondation pour le logement social à ouvrir 2 nouvelles maisons à Saint-Étienne en faisant un don sur www.fls-fondation.org. Le Grand Débat.
Le Grand Débat.
Louis Dauphren.
plus vite, plus fort, plus haut, c'était l'esprit des Jeux. On a parlé d'ailleurs récemment du père Henri Didon, qui a été l'inspirateur de Pierre de Coubertin pour lancer les JO de l'ère moderne. On va parler un peu des sources de l'olympisme, avec l'esprit bien sûr du sport, mais aussi les enjeux sportifs qui nous attendent pour les JO qui vont commencer le 26 juillet. Mais d'abord, les sources et l'esprit de l'olympisme avec Pascal Boniface, Gérard Regnès et François Morinière. Vous écrivez, Pascal Boniface, dans cette bande dessinée, hein, c'est Tommy qui illustre cet ouvrage paru chez Dunod et dont on va expliquer le sens quand vous dites que le mythe de l'apolitisme du sport ne résiste pas à l'examen précis du géopolitologue que vous êtes, Pascal Boniface. Donc ça, c'est pour l'ère moderne. Mais est-ce que l'ère moderne et les jeux antiques, est-ce qu'il y a quand même un trait d'union entre les deux? Est-ce que ça se retrouve?
Bah oui, c'est la rivalité entre cités du temps de la Grèce antique et entre nations dans l'ère moderne. Et mais c'est aussi le fait d'appartenir au même monde, le monde grec ou le monde universel, même s'il est traversé de crises. Donc dans la Grèce antique, les cités se faisaient la guerre très régulièrement. Il y avait la trêve olympique qui appartenait quand même au même monde, qui n'était pas celui des barbares. Là, avec les Jeux olympiques d'aujourd'hui, c'est le monde universel, à l'exclusion de ceux qui sont exclus, mais qui sont plutôt rares. Et donc il y a à la fois cette célébration de l'unité, de l'universalisme, tout en faisant une rivalité qui est organisée, qui est régulée. C'est pas la guerre, parce qu'on ne fait pas des jeux, des compétitions sportives avec des pays en gagnant la guerre, mais on garde cette compétition qui se fait de façon pacifique. Du temps de la guerre froide, l'Union soviétique et les États-Unis comptaient le nombre de médailles d'or qu'ils avaient chacun pour montrer que leur régime était supérieur. Et donc, voilà. Mais moi, je préfère une compétition pacifique, parce que c'est bien qu'il y ait des compétitions. Ça permet... Certains disent le sport, c'est la guerre. Non, c'est que, justement, le sport permet de sublimer la rivalité en la transférant sur un champ symbolique et qui est régulé, qui est arbitré et qui est aussi pacifique.
Donc, il y a une dimension de civilité dans les JO. Hein. L'affrontement des cités grecques que l'on réplique entre les nations, c'est en fait un acte de civilité. C'est ça qu'il faut essayer de se représenter. Gérard Regnès.
Oui, c'est-à-dire, il y a un endroit qui est très symbolique des Jeux Olympiques, c'est le village olympique. Pour ceux qui ont suivi déjà des Jeux Olympiques, bon, moi, ça m'est arrivé par le passé, par ma profession.
Journal
de
l'équipe.
J'ai travaillé à l'équipe, donc j'ai suivi des Jeux Olympiques. Et tous les sportifs français que j'ai pu côtoyer, qui ont participé aux Jeux Olympiques, ont été fascinés, éblouis, emballés par le village olympique, largement autant que par leur compétition. Parce que c'est un endroit où on croise... Alors, c'est une tour de Babel, si vous voulez, c'est une tour de Babel, mais c'est une tour de Babel en positif. Tout le monde croise tout le monde. Où, voilà, il y a des jeunes, ce sont généralement des jeunes, les sportifs, de plus de 200 pays. Vous vous rendez compte ce que ça signifie. C'est la plus géniale auberge de jeunesse qu'on ait jamais inventée. Et donc, ce village, pour moi, c'est le symbole des Jeux, parce que c'est là vraiment que tout le monde se croise. Après, chacun part sur ses compétitions. Alors, les rameurs, ils vont aller sur leur bassin, les judokas, ils vont aller sur leur tatami. Et tout le monde se retrouve au village. Tout le monde a des histoires, tous ceux qui ont participé ont des histoires de village olympique. Moi, j'ai suivi l'équipe de France de football en 1984, aux Jeux de Los Angeles, et puis elle a obtenu la médaille d'or. Et la compétition avait commencé sur la côte Est. Donc, il fallait déjà réussir le premier tour. Ils étaient à Annapolis, Saint-Paul, Boston, et pour avoir le droit d'aller aux Jeux Olympiques. Et quand ils sont arrivés pour disputer les quarts de finale, donc en plein cœur des Jeux, là, ils étaient à l'hôtel avant. Ils sont allés au village olympique. Et dès le lendemain, je les ai croisés. C'était des histoires folles. Ils se sont retrouvés dans un dortoir à 12 à dormir sur des matelas par terre. Tout. Et ce qui, pour des sportifs professionnels, était inconcevable, devenait un objet de réjouissance. Et puis, ils croisaient les grands champions d'athlétisme, les grands champions d'autres sports. Et ils étaient fascinés, en fait, par...
Le grand public ne le voit pas, ça.
Non,
voilà, non, il va voir la parade nautique, il ne va pas voir le village olympique.
En direct des villages olympiques, ça, on ne le voit pas. Ça, c'est
il n'y aura pas de caméra.
Le lieu des sportifs. Non, au village olympique, ben, il y a des lieux de prière. Il y a, bien sûr, il y a les musulmans prient, les chrétiens prient, les juifs prient. C'est un lieu tout à fait extraordinaire. Je trouve qu'il symbolise très, très fort les Jeux olympiques, autant que les compétitions.
François Morinière.
C'est amusant que Gérard parle du lieu de culte, parce que vous savez qu'on s'en occupe à travers le projet Holy Games de l'Église de France. Et ce que je peux vous dire, c'est que ce lieu qui est partagé entre cinq religions, les relations sont très apaisées. Certaines religions prêtent des mètres carrés à d'autres parce qu'ils en ont besoin. Enfin voilà, c'est là aussi, ça se passera dans l'enceinte du village olympique. Et on est très loin des tensions qu'on voit partout dans le monde, et c'est assez réjouissant. Alors l'autre symbole, Gérard parle du village, moi je trouve que l'autre symbole, alors qu'il est parfois un peu rasoir parce que c'est long, mais il faut quand même revenir à ça, c'est la cérémonie d'ouverture. Moi, je reviens à mes images d'enfance, où on voit ces drapeaux qui défilent, cette petite délégation avec 3 ou 4 athlètes qui vient d'un pays inconnu, des îles Pacifiques, et puis après, les 400 ou 500 athlètes américains. Ces contrastes, ces couleurs, ces habits, ces drapeaux, voilà, moi, je trouve que c'est aussi... un moment fort. Alors, on verra comment ça va se traduire ça dans la cérémonie sur la scène. Peut-être que ça sera moins visible. Alors, parfois, les gens râlaient parce que ça dure une heure. Mais c'est quand même une symbolique qui est très belle de voir les petits, les grands mélangés dans un stade et demain sur la scène pour montrer que tout le monde a sa place et pour revenir à plus haut, plus vite, plus fort ensemble. Et aussi, participer, c'est important pour ces pays. C'est souvent le seul moment au monde dans l'histoire ou dans l'actualité contemporaine où ces petits pays existent. Voilà, et tout d'un coup, avec des milliards de téléspectateurs, eh bien, ce drapeau d'un petit pays inconnu flotte comme le drapeau des grandes puissances. Et ça, c'est très beau.
Pascal Boniface.
C'est David Douillet qui disait, pour répondre à Gérard Hergès, que le village olympique, c'est un zoo humain. Parce qu'il y a non seulement toutes les nationalités, donc toutes les couleurs, toutes les races, mais aussi tous les sports, et donc toutes les morphologies, puisque si vous faites de la gymnastique sur barre, vous n'avez pas le même physique, vous êtes de l'haltérophilie ou du basket, etc. Et effectivement, et par rapport au mélange professionnel, parce qu'aujourd'hui, avant, il n'y avait que des amateurs, et il y a beaucoup de sportifs, ils sont champions olympiques, ils ont du mal à joindre les deux bouts, il ne faut pas croire. Mais aujourd'hui, c'est ouvert aux professionnels, donc vous pouvez avoir Djokovic qui est multimillionnaire, si ce n'est milliardaire, qui croise des gens qui ont du mal à joindre les deux bouts, mais qui sont un peu tous au même endroit. Djokovic est très content d'être au village olympique à Tokyo, ce qui est un peu bizarre d'ailleurs, parce que c'est un jeu sans spectateurs. D'ailleurs, les spectateurs. Alors bien sûr, il y a des délégations qui sont un peu... La délégation américaine, des basketteurs seront ailleurs, mais quand même, il y a cet universalisme du village qui est finalement très sympathique.
Alors justement, j'ai quelques questions peut-être de Béotiens, puisque ça vient de la Grèce, c'est l'occasion d'en parler. Est-ce que les JO, au départ, n'étaient pas réservés aux amateurs, précisément?
Tout à fait. Coubertin était très sévère là-dessus.
Et ben pourquoi n'y a-t-il pas des amateurs, là, uniquement?
Parce que, à partir de 90, Samaranch a dit qu'il fallait avoir les meilleurs sportifs. Et que si vous ne faites que les amateurs, il y a des sports où les meilleurs ne sont pas là. Et donc, notamment en 92, c'était le grand choc, puisque la Dream Team de basket, donc les basketteurs américains qui étaient les meilleurs au monde, sont venus. Et avant, ils étaient exclus. Alors, pendant la guerre froide, ça arrangeait beaucoup les pays de l'Est que les professionnels soient exclus, parce qu'eux étaient tous amateurs. Ils étaient colonels, commissaires de police. Bon, en fait, c'était des sportifs professionnels, mais ils étaient déguisés en fonctionnaires. Alors que, bon, du côté États-Unis, il y avait des étudiants qui avaient un peu prolongé leurs études aussi. Chacun trichait un peu avec les règles. Et là, on dit, tout le monde peut venir. Alors, il y a le grand schisme, mais ce n'est pas à Gérard Régnès que je vais l'apprendre, parce que lui, spécialiste de football, c'est qu'au début, la Coupe du Monde de football a été créée pour échapper à cette règle-là. Parce que seuls les amateurs pouvaient participer aux Jeux Olympiques, et l'épreuve phare des Jeux Olympiques était la compétition de football. Et puis, comme les meilleurs étaient déjà professionnels, ils ne pouvaient pas y participer, on a créé la Coupe du Monde première édition en 1930 pour que les meilleurs joueurs puissent participer à l'épreuve reine. Et maintenant, dans le football, la règle, c'est des moins de 23 ans. Donc il y a une règle pour que ne pas dupliquer, disons qu'il y a une sorte de Yalta entre la Coupe du Monde et les Jeux Olympiques pour que chacun reste chez soi.
Est-ce qu'il y a des sports qui ne sont pas représentés aux Jeux Olympiques?
Ah bah oui,
il y a le karaté.
Mais voilà. Sur quels critères choisit-on ou ne choisit-on pas tel ou tel sport? Est-ce que ça change d'une épreuve à l'autre?
Alors, je ne sais pas sur quels critères. La Formule 1 n'est pas représentée, par exemple. Alors, on pourrait très bien dire c'est pas tellement universel non plus, la Formule 1.
Mais enfin, il y a des grands prix de Formule 1 sur tous les continents.
Oui, sur tous les continents. Mais les sportifs eux-mêmes, on ne peut pas dire qu'ils représentent l'intégralité de la
planète. Donc il faudrait imposer des critères de diversité.
Non, mais il y a quelques sports comme ça qui, sans doute pour des raisons économiques ou techniques, ne sont pas représentés. Il y a la grande majorité des sports est représentée. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir que les Jeux Olympiques s'adaptent. C'est-à-dire, remontons 20 ans en arrière, et on nous dit un jour le hip-hop, le breakdance va faire partie des Jeux Olympiques. Enfin, c'est juste dément d'imaginer ça. Parce que limite, c'est...
Mais le MMA n'en fait pas partie, par exemple.
Mais pas encore. Pas encore, mais parce que le breakdance rentre cette année. Il y a des nouveaux sports qui arrivent, mais qui en fait sont des sports contemporains, je dirais, qui correspondent mieux à la jeunesse d'aujourd'hui, et donc qui l'attirent vers les Jeux Olympiques, vers l'olympisme aussi. Il y a des gens qui vont regarder, qui n'auraient peut-être pas regardé les Jeux Olympiques, et qui vont trouver ces épreuves tout à fait spectaculaires. Alors, ils évoluent, les Jeux Olympiques. Ils s'adaptent aux évolutions de nos sociétés.
Quels sont les jeux intégrés ?
5 nouveaux sports cette année, qui ont été choisis par le comité d'organisation Paris 2024, accepté, mais la breakdance ne sera plus à Los Angeles. Le karaté était à Tokyo, et il n'est pas là, parce que disons que l'organisateur de la compétition peut choisir 5 sports nouveaux. Le taekwondo n'existait pas avant les Jeux de Séoul, et maintenant il est une discipline olympique. Alors il y a des jeux qui sont très... Disons que le CIO essaye d'avoir des jeux spectaculaires, et Jean René s'y faisait allusion, la breakdance c'est pour que des jeunes regardent cela, parce que ça les intéresse plus que peut-être d'autres sports moins télévisuels. On sait que par exemple le beach volley a été fait en sorte pour qu'il soit plus visible, attirer le regard, etc.
Mais le tir à l'arc qui n'est pas du tout télévisuel...
Oui, voilà, est protégé par son statut. Il y a une épreuve qui est sans cesse menacée, c'est le pentathlon moderne, parce que c'est un peu ancien, c'est pas très spectaculaire, et puis il y a très peu de pratiquants en fait, mais c'est une épreuve créée par Coubertin lui-même, donc c'est un peu compliqué. Et la lutte avait failli être exclue des Jeux, et là il y a une alliance géopolitique assez curieuse entre Iraniens et Américains pour protéger la lutte, qui est un sport auquel ils sont très attachés, et ils ont dépassé leur opposition géopolitique pour que la lutte reste au programme des Jeux. Là, ce qui est menacé, c'est la boxe, mais c'est pour des questions de gestion de la Fédération nationale de boxe, qui est contrôlé par les Russes et dans lequel, disons, les règles de transparence, d'équité sont un peu sous-évaluées.
François Morinière, sur la diversité des sports, sur les choix qui sont faits en la matière.
C'est quand même, en général, des choix assez raisonnables. Par exemple, alors Gérard a parlé des sports mécaniques, effectivement, qui sont exclus, mais il y a d'autres grands sports qui sont revenus dans le giron olympique. Je pense au golf, hein, qui a été... remis, qui était au début aux Jeux Olympiques de 1900, et puis qui était sorti et qui est revenu à Rio en 2016. Voilà, donc c'est un sport qui est revenu, qui a quand même une belle aura, et puis c'est un sport avec bien sûr beaucoup de joueurs professionnels. Et il y a le rugby. Alors le rugby, c'est aussi un cas intéressant parce que le rugby avait été un sport olympique, puis a disparu, et puis est revenu dans une formule un peu différente, qui est le rugby à 7. Donc pour ceux qui suivent le rugby, donc ils connaissent. Pour les autres, le rugby ça se joue à 15 joueurs, et donc c'est un rugby à 7 qui est beaucoup plus court, beaucoup plus spectaculaire, et qui sera aux Jeux Olympiques de Paris. Et puis l'autre point dont on peut parler, c'est quand même souvent la parité des épreuves, hein, puisqu'il y a des épreuves de rugby à 7 pour les femmes, pour les hommes, le golf féminin, masculin, donc beaucoup d'épreuves qui sont déclinées pour les hommes, pour les femmes, puis les exceptions de sports totalement mixtes, et je pense bien sûr à l'équitation, où c'est un sport, une des épreuves où femmes et hommes participent à la même épreuve pour gagner la médaille olympique.
C'est le seul sport dans ce cas-là, justement, l'équitation ?
Je pense. Je parle sous le contrôle de Pascal Augirard. Oui.
Pour la première fois cette année, il y aura autant de sportifs que de sportifs. Il y aura une parité totale entre le nombre d'athlètes, parce qu'on limite le nombre d'athlètes, sinon on ne pourrait pas accueillir au village olympique et dans les compétitions. Donc il y a une jauge qui est environ à 11 000 sportifs. Et là, pour la première fois des Jeux, ça sera totalement paritaire. Il y aura autant de femmes que d'hommes qui vont participer aux Jeux.
C'est quand même un point...
C'est le seul sport comme ça, l'équitation. Ouais.
C'est l'équitation, le seul sport où les femmes et hommes participent
ça, évidemment,
à la même épreuve.
Ça change beaucoup de l'Antiquité. Quand on dit aujourd'hui qu'il y a autant de femmes que d'hommes qui participent
sous l'Antiquité, c'était exclusivement masculin.
Oui,
et les femmes étaient même exclues des spectatrices. Oui. Enfin, il n'y a pas de spectatrices.
Oui, bien sûr. Enfin bon, c'était...
Qu'y a-t-il à attendre du point de vue des sportifs français? Quels sont les grands noms qui vont émerger peut-être de ces Jeux Olympiques? Qu'est-ce que ça représente en fait pour la France en termes d'image sportive aussi? Pascal Boniface, Gérard Régnès, François Morinière, Gérard.
Oui, alors évidemment, c'est important. On a bien compris que au-delà de la qualité de l'organisation, les résultats sont importants, c'est-à-dire que tous les efforts qui sont faits seront analysés aussi à l'aune du nombre de médailles qui vont être remportées. Ça a toujours été le cas, mais c'est encore plus le cas quand vous organisez. Évidemment. Donc, même les autorités politiques misent, espèrent en tout cas, qu'il y aura un grand nombre de médailles, le record de nombre de médailles jamais gagné par des sportifs français. Et ce qui est intéressant, c'est de voir cette fascination des Jeux Olympiques. c'est que des joueurs qui, a priori, des sportifs qui n'étaient pas destinés à participer aux Jeux Olympiques, ne cessent d'exprimer leur amour des Jeux Olympiques. Alors, par exemple, Antoine Dupont, qui est le meilleur joueur de rugby au monde, enfin, disons ça, allez, oui, c'est l'un des meilleurs, en tout cas, c'est le plus grand joueur français, va participer, c'est-à-dire qu'il change de sport, il passe au rugby à 7, alors c'est le même sport, qui ne se joue pas de la même façon. Kylian Mbappé a toujours exprimé son amour des Jeux. Alors effectivement, il y a 40 ans, il n'aurait pas pu faire les Jeux Olympiques, puisqu'il n'aurait pas eu le droit par son statut de sportif professionnel. Ça, c'était l'époque d'Avery Brundage, le président du CIO, avec lequel il n'était pas question de sortir de cette ligne-là. Des sportifs étaient exclus, pour fait de professionnalisme, exclus des Jeux Olympiques. Et donc, ça donne du sens quand même de voir que des sportifs, qui à la limite, on pourrait dire, n'ont pas besoin de ça, ils font les plus belles compétitions mondiales, ils ont les plus hauts salaires qui puissent exister dans leur sport, ils veulent participer aux Jeux Olympiques. Donc ça a du sens pour la France. Après, il faut aussi des héros. Il faut des héros. Et pour moi, je pense que le héros français des Jeux Olympiques se prénomme Léon et se nomme Marchand. C'est un nageur. Alors, tout le monde ne le connaît peut-être pas encore. Bien sûr, les spécialistes de sport le connaissent parce qu'il a déjà gagné beaucoup de médailles d'or aux championnats d'Europe, aux championnats du monde. Et la natation est un sport particulier. Ça fait partie de ces quelques sports qui permettent à un seul sportif de gagner beaucoup de médailles d'or. C'est le cas de la gymnastique, par exemple, où il y a beaucoup d'épreuves. Alors, c'est arrivé qu'il y ait eu 5-6 médailles d'or. L'américaine Bills, actuellement, a déjà gagné beaucoup de médailles d'or.
Il y a plus d'occasions d'en gagner parce qu'il y a plus d'épreuves.
Et bien sûr, parce qu'il y a plus d'épreuves. Donc, le Marchand, il va nager le 100 mètres comme ci, le 200 mètres, 4 nages comme ça. Et alors, lui, il est tombé dans l'eau quand il était petit, puisque ses parents sont d'anciens champions, des nageurs, anciens champions de natation. Et voilà. Et alors, il est sympathique, il a une bonne gueule. Et voilà, moi j'imagine.
Donc Léon Marchand sera peut-être le visage de la France pour les Jeux,
mais ça c'est important qu'il y ait des héros.
De votre côté,
oui, il y a tous les sports collectifs dont la France a des masculins comme féminins où la France a de bonnes chances de médailles. Il y a bien sûr Teddy Riner qui pourrait remporter une 4e médaille d'or. Et puis il y a peut-être les inconnus qui font la surprise, etc. Mais vous parliez du statut, c'est très important en termes d'image. Bien sûr, le fait qu'on ait beaucoup de médailles d'or ou pas ne va pas changer le statut de notre économie, de notre armée, etc. Mais en termes d'image, quand vous allez à l'étranger, si vous êtes des sportifs qui ont fait des exploits, vous êtes mieux reçus. On vous regarde avec un œil un peu attention. Et on raconte avec Tommy dans la bande dessinée d'un monde de jeu. De Gaulle n'était pas un fan de sport, mais quand à Rome en 1960, il y a un bilan catastrophique pour la France de 5 médailles, dont aucune d'or, De Gaulle dit c'est pas possible que moi je revienne au pouvoir en France pour restaurer le statut de la France et qu'on ait un statut aussi minable. Et donc il va créer l'INSEP, il va prendre des décisions pour que la France brille de nouveau sur le monde sportif. Donc ce qu'on appelle la puissance 12, le soft power, en géopolitique c'est extrêmement important, c'est l'image d'un pays, et si vous avez des sportifs qui réussissent, ça donne l'image d'un pays qui est dynamique, qui est en forme lui aussi. Donc en fait, il y a une sorte de décalage entre la forme d'un pays et la forme de ses sportifs.
Il y a une injonction réelle là, de ce point de vue, de réussir sur ce terrain sportif.
Je peux vous dire que tous les présidents, on dit souvent, d'ailleurs c'est un pontosin de dire les pays dictatoriaux mettent le sport en avant pour faire passer le régime, mais tous les pouvoirs, mais dans les pays démocratiques comme dans les pays autoritaires, c'est pareil. Chaque dirigeant se dit chouette, si j'ai les sportifs qui réussissent, c'est bon pour ma cote de popularité et c'est bon pour mon image internationale.
Léon Marchand pour Gérard Agnès. Pour vous, Pascal Boniface, il y a un nom déjà qui émerge.
Oui, Léon Marchand, parce que comme l'a dit Gérard, c'est qu'il peut remporter beaucoup de médailles. Il y a les raccords de Michael Phelps et puis les jeunes. Il fera aussi les prochains Jeux de Los Angeles. Donc il peut aller avec cela. Bon, il y a nos deux pongistes aussi, les deux frères qui peuvent créer la surprise aussi. Puis il y a des gens qu'on n'attend pas et qui vont se révéler. Et puis il y a des gens qu'on attend qui vont échouer. C'est ça aussi. Heureusement, le palmarès n'est pas fait à l'avance. C'est ça qui est formidable, c'est qu'on ne sait pas à l'avance qui va gagner.
François Marinière, sur ce point.
La bonne nouvelle, c'est que dans la chronologie des JO, les épreuves qui sont plutôt dans la première semaine sont favorables. Donc Gérard a parlé de Léon Marchand, c'est le cas aussi en général de l'escrime et du judo qui commence au début où on a généralement beaucoup de médailles. Et donc c'est bien parce que ça va créer une dynamique positive où les médias vont dire ça y est, on a déjà 12, 15, 30, 20 médailles, ça va être formidable, etc. Donc ça c'est une bonne nouvelle. L'angle mort c'est l'athlétisme parce que généralement on perd des places au classement en deuxième partie de JO. Et là ça s'annonce aussi de manière assez assez négative parce qu'on a eu des derniers championnats d'Europe ou du monde ont été extrêmement décevants pour les Français. Donc voilà, la deuxième semaine risque d'être un peu moins euphorique parce que là, en athlétisme, on est un peu faible. Donc, mais encore une fois, le début va être a priori très positif, je pense, en termes de nombre de médailles. Et donc, ça va créer une dynamique, d'un enthousiasme, un engouement. Et, voilà. Et puis, il y aura toujours le sportif inconnu, de la belle histoire, probablement que même les experts n'ont pas vu, qui va être le coup de cœur de tout le monde. Parce
la révélation.
Voilà, exactement. Et là aussi, ça va être certainement... voilà. Et puis moi, j'ai bien sûr une pensée particulière pour Teddy Riner, parce que voilà, c'est un garçon exceptionnel que j'avais eu la chance de voir quand je travaillais à l'équipe. Et voilà, qui est dans un Graal très particulier et qui est un symbole de la France très fort.
Alors, si la France est plutôt bonne dans les sports individuels, hein, tels que ceux que vous avez mentionnés, la natation par exemple... Les sports collectifs, donc on attend de voir, même s'il y a Antoine Dupont. Quand on parle de l'athlétisme, c'est quand même important parce qu'on a l'impression que c'est le sport le plus représentatif quand même, ou l'un des sports les plus représentatifs, avec toutes les disciplines qui le composent, de ces Jeux Olympiques. Et donc, si on n'est pas très très bon, ça risque peut-être, non, Pascal Boniface, de nous faire passer un petit peu.
Oui, disons qu'on va se débrouiller pour parler de ce qui marche et pas de ce qui marche pas, comme toujours.
C'est difficile parce qu'il y a beaucoup d'images de l'athlétisme.
C'est l'image, effectivement, des sports antiques. C'est vraiment c'est le sport premier, c'est la matrice des JO. Et pour des raisons liées à la société, liées aussi à la place du sport à l'école, etc., l'athlétisme marche moins bien. Et on a Kevin Meyer, mais qui a du mal à réussir les minimaux en décathlon. Mais on a moins... Bon, l'époque de Guy Drut est un peu tombée. Et il n'y a plus de Jazzy, etc., ni encore moins de Mimoun. Mais donc, je veux dire, l'avantage des Jeux, c'est qu'il y a tellement de sports que chacun fait son marché là où il peut. Et on parlait tout à l'heure des 206 nations qui vont représenter, chacun les objectifs qui sont à la hauteur de ses ambitions. Et pour certains pays, le fait d'avoir un finaliste, un national, en finale d'une épreuve, suffit à faire le bonheur de toute la population. Donc, je veux dire, chacun peut...
Quelles sont les ambitions françaises, en fait, en termes de médailles?
Alors oui, alors il y avait l'ancienne ministre des Sports, elle dit, il nous faut 70 médailles, mais c'est facile de dire comme cela. Il ne faut pas que le pouvoir politique fixe l'objectif de médailles, surtout quand on mégote sur les crédits accordés au sport, et etc. Donc, bon, voilà, laissons les sportifs faire leur préparation, et on verra. Disons qu'il y a plutôt un étalonnage par rapport aux précédents Jeux. On essaye plutôt d'être à la hauteur de ce qui s'est fait auparavant. Alors, il y a des Jeux qui sont très bien passés, c'est à Rio, c'est à Tokyo, c'est un peu moins bien marché. Et là, quand on est à Paris, c'est vrai que la Chine a très bien marché en 2008. L'Angleterre a très bien marché en 2012, qui était chez eux, et qui, eux, les Anglais, de façon très intelligente, avaient misé sur des sports où il y a beaucoup de médailles et assez peu de compétiteurs. Et donc, ils avaient fléché des crédits exprès pour qu'au final, sur le tableau, ça soit très bien présenté.
Est-ce que, justement, François Morinier, on flèche les crédits? Est-ce qu'on fait ça, nous?
Il y a une bonne nouvelle, puisque les Russes ne sont pas là, donc ça fait plus de médailles pour les autres.
Et il y a aussi ça, on élimine un peu un concurrent, quand même. Est-ce que, François, est-ce qu'on flèche un petit peu les crédits, les efforts vers ce qui permet d'obtenir des médailles? Est-ce qu'on ressent ça?
Ce que vient de dire Pascal est assez significatif par rapport à la stratégie des Anglais, notamment on se souvient sur le cyclisme, où ils avaient fait une rasière incroyable de médailles à l'époque. Je parle sous le contrôle de mes deux amis, mais je crois que nous, on n'a pas fait ça du tout. Donc, je dirais, on n'a pas... voilà.
Il n'y a pas d'opportunisme chez nous.
Comme vous disiez, Louis... l'athlétisme est un énorme pourvoyeur de médailles. On a su en 2016, oui, 2016, qu'on allait organiser les JO, 17. On avait quand même le temps d'essayer de faire des choses. Bon, voilà, 7 ans après, on sera pas en position de rafler beaucoup de médailles en athlétisme. Donc, je pense que voilà, les grands sports ont continué à avancer dans la bonne direction. Les sports, d'autres sports n'ont pas réussi à faire le trou. Je ne crois pas malheureusement que cette stratégie elle était mise en place. Voilà. Après, les grands sports collectifs seront au rendez-vous. Le handball, probablement le basket, féminin, masculin, peut-être le volley. Voilà. Donc, mais je ne crois pas qu'il y aura une cartographie de médailles très différente des 25 dernières années, des 30 dernières Olympiades. Alors la natation va revenir au premier plan, mais rappelons-nous qu'on avait quand même eu des champions exceptionnels en natation dans les années 2000-2010. Donc ça a toujours été quand même un sport costaud en termes de source de médailles. Hein. C'est un trait particulier de la France qui est quand même une bonne nation de natation. J'ai l'impression qu'on va être encore meilleur là où on est et assez mauvais là où on est mauvais, si vous voulez. Hein.
Et ça, donc, ça va peut-être... Hormis les révélations qui peuvent évidemment, et il y en aura certainement.
Voilà, enfin bon, en athlétisme, c'est assez rare que des athlètes avec des minima, ouais, etc., tout d'un coup se révèlent. Enfin, c'est assez rare que ça soit chamboulé dans les médailles, vous voyez.
L'athlétisme est le sport où la concurrence est la plus féroce. Donc, c'est difficile. Et puis, en France, on n'a pas d'usine à champions comme ça peut exister dans certains pays. Donc,
pas d'usine à champions, mais on verra quand même ce qui se passe. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Pascal Boniface qui publie Un monde de jeux avec le dessinateur Tommy. C'est aux éditions Dunod. Vous présidez l'Iris. Merci à François Morinière et à Gérard Regnès qui ont tous les deux signé dans l'équipe. Merci beaucoup à tous les trois pour cette spéciale JO. Et on se retrouve bientôt, peut-être pour en parler début juillet.